France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Et voici Interactive 01 45 24 7000 et pour vous répondre, David Bénichoux qui est vice-président chargé de l'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Avant de rejoindre les auditeurs, David Bénichoux, que pensez-vous de cette polémique actuelle, Bernard Cazeneuve qui porte plainte pour diffamation contre la chef de la vidéosurveillance de Nice?
Je me doutais que vous me poseriez la question. Déjà, je ne prends pas part aux polémiques qui me concernent, encore moins à celles qui ne me concernent pas.
Mais vous êtes un spécialiste de la lutte contre le terrorisme. Vous connaissez les faits. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que ce soir du 14 juillet, manifestement, il y avait un dispositif de sécurité qui n'était pas suffisant à Nice?
Je suis navré, mais je n'ai aucun élément qui me permet d'avoir une opinion sur la question.
Et si j'en avais une, les chiffres.
Si j'en avais une,
vous connaissez les chiffres. Les policiers nationaux, les policiers municipaux qui étaient rassemblés, plus les militaires.
Élever le débat. Il est certain que maintenant, à chaque fois qu'on aura un événement public, il y a des gens qui vont trembler. Ce sont ceux qui sont chargés de mettre en place les dispositifs de sécurité publique. C'est un métier qui est très difficile, surtout dans le contexte actuel. C'est facile de prévoir ce qui s'est déjà produit, c'est toujours difficile d'anticiper ce qui va se produire et que par nature on ignore. Et on est en difficulté de prévoir à peu près toutes les attaques possibles. On ne peut pas se protéger d'absolument tout. On peut essayer ensuite de minimiser les risques. Alors je vous dirais à l'extrême, qu'est-ce qui peut se passer pour protéger la population? C'est interdire les rassemblements publics. Voilà. Est-ce qu'il faut en arriver là? Ou est-ce qu'il faut assumer une part de risque en essayant de limiter au maximum le risque, au minimum le risque d'attentat? Voilà. Mais c'est des questions qui sont éminemment complexes à arbitrer à chaque fois au niveau local et sont des responsabilités extrêmement lourdes. Parce que je peux vous assurer que les personnes qui sont investies de ces responsabilités, le jour où il y a un problème, elles n'ont pas besoin d'être mises en cause dans les médias. La conscience, c'est déjà un tribunal suffisant.
Au Standard Interactif ce matin, Denis dans l'Oise est avec nous. Bonjour Denis.
Oui, bonjour France Inter.
Merci d'être avec nous. David Bénichoux vous écoute.
Oui, je vous en prie. Oui, je partage assez l'avis du juge. Ça, c'est une réflexion. L'agitation politique donne vraiment une image déplorable de la politique. Ça, c'est une réflexion. Mais heureusement que les institutions et l'opinion tient bon. Et se montre en cela bien plus digne que la classe politique. Alors ma question, elle est simple. Sarkozy a démantelé les renseignements généraux, une institution qui avait prouvé son efficacité par un maillage territorial et qui donnait des résultats excellents. Dans les propositions, il semble que la commission n'a pas émis l'idée que la reconstitution de ce service pourrait être envisagée. Est-ce que le juge pourrait nous donner une indication sur...
Réponse, David Bénichoux.
Alors, en ce qui concerne la disparition des renseignements généraux, il faut savoir qu'ils n'ont pas disparu, mais ils ont fusionné avec la DST pour devenir la DCRI, qui ensuite est devenue la DGSI. Tout cela a été intégré. C'est en quelque sorte la marche de l'histoire. On va vers une intégration des services. La France souffrait et souffre parfois toujours de la multiplication des services, avec chacun leur logique, leur culture et des déficits de partage d'informations. Toute mutation des organisations se fait dans le temps et avec des difficultés, c'est certain. Je ne suis pas sûr que les renseignements généraux de l'époque nous apporteraient de meilleurs résultats que la DGSI d'aujourd'hui face à un phénomène qui, il faut le rappeler, est nouveau. La crise syrienne, c'est quelque chose d'absolument nouveau qui a débuté en mars 2011. On est face à un terrorisme que la France n'a jamais connu. C'est absolument incomparable avec ce qu'on appelait les filières afghanes, le terrorisme des années 80. C'est absolument incomparable. Donc les outils de l'époque ne sont pas forcément ceux qui auraient aidé bien aujourd'hui.
Comment une politique de renseignement ultra ciblée, ultra secrète peut être aujourd'hui efficace selon vous?
Je pense qu'il y a deux axes. C'est qu'aujourd'hui, il faut revenir au plus proche des sources, c'est-à-dire le renseignement humain et évidemment le renseignement technique. La grande difficulté, c'est qu'on est face à parfois des cellules terroristes qui sont quasiment individuelles, donc il se pose un grand problème de détection. Comment est-ce qu'on va déceler chez un individu radicalisé et parfois depuis très peu de temps l'imminence d'un passage à l'acte? Extrêmement difficile. pour les groupes qui sont constitués, aujourd'hui, ils s'adaptent aussi à la répression. Ils savent utiliser des moyens de communication qui les rendent beaucoup plus discrets. Donc il y a une adaptation perpétuelle entre les moyens du renseignement et les moyens d'enquête.
Mais on s'adapte, nous, les autorités ?
On s'adapte, on cherche à s'adapter. Regardez le travail de la commission d'enquête. Toutes les institutions sont en train de réfléchir à ça. Maintenant, une organisation, ça ne se change pas d'un claquement de doigts.
Le socialiste Julien Drey suggère que l'on s'inspire d'Israël en ayant plus de profileurs. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
Je pense, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais il peut s'agir de quelque chose comme une détection à partir d'un faisceau d'indices. On parle aussi parfois de signaux faibles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir une réunion d'indices suffisamment significatifs, avec peut-être une indication statistique sur le fait que quand on a tant de ces critères qui sont réunis, alors on a une probabilité de passage à l'acte fort, on peut s'autoriser à entraver. Je pense que c'est ce type de raisonnement. Après, c'est une vraie question, parce que c'est un risque. On va faire peser sur des individus un soupçon. Mmh. Il faut savoir ce qu'on veut privilégier. Est-ce qu'on veut privilégier la protection de la population ou la protection d'individus qui pourraient être soupçonnés à tort? C'est une vraie question politique. Mais derrière, il y a une traduction concrète. C'est le nombre de victimes qu'il va y avoir dans les attentats. Donc ça, c'est une vraie question politique et un choix de société. Est-ce qu'on veut abaisser le seuil de suspicion pour neutraliser judiciairement les possibles terroristes, ou est-ce qu'on veut laisser une part d'inconnu, mais à partir de là, il va falloir en assumer les risques.
Avec nous Jean-Philippe Deniaud, le chef du service police-justice de France Inter.
C'est pas simple quand même, parce qu'on voit dans le cas de Mohamed Laouayech Boulel qu'il n'a pas eu de communication directe, ni avec un membre, ni avec un membre de l'État islamique, ni même avec une personne qui aurait été en contact. Comment détecter des personnages de ce type-là avant le passage à l'acte ? Le renseignement ne suffit peut-être pas.
Alors parfois, Il y a une source de renseignement qui est inestimable. C'est tout simplement l'entourage familial de l'individu. Et il y a un certain nombre de cas où on a la famille qui avertit les services de ce qu'un de les leurs est en train de changer, est préoccupant. Et parfois, il y a un certain nombre de cas qui ne sont pas connus de la presse, où on a arrêté des individus sur le chemin d'un passage à l'acte. Donc je dirais, en quelque sorte, là, il faut faire appel d'une certaine manière, à la conscience de tous nos concitoyens. Quand ils voient quelqu'un ou quelque chose qui commence à déraper, voilà, il est de leur responsabilité d'avertir, d'alerter. On ne peut pas mettre des agents de renseignement partout en France. C'est pas possible, on ne peut pas...
Sur les réseaux sociaux, des réactions, des questions, Antoine Marette ?
Alors, beaucoup de dénonciations des hommes politiques en termes parfois pas très élégants sur Twitter. Cette question de Marie-Cat, question qui peut être lue à l'antenne. Le but de Daesh est de nous déstabiliser. Que pensez-vous du comportement et des conséquences de nos politiciens ?
J'ai posé la question déjà à propos de cette polémique entre Bernard Cazeneuve et la chef de la vidéosurveillance de Nice. Et David Benichou ne veut pas prendre parti.
Disons que je préfère parler du fond, des vraies questions. Je trouve qu'il y a certaines polémiques et sujets qui sont indécents, comme de mesurer la cote de popularité d'un élu par rapport aux attentats. Voilà.
Mmh. Jean-Philippe Deniaud.
Est-ce que l'état d'urgence vous aide dans votre travail de juge au quotidien ?
Absolument pas. Parce que l'état d'urgence, c'est avant tout des mesures administratives. Voilà. Donc le juge, il travaille en mode judiciaire. Voilà. C'est vraiment
des logiques. Est-ce que vous en avez les retombées
très différentes. Je peux pas. On en a des retombées, mais très indirectes. Voilà. L'état d'urgence, il permet de pratiquer une sorte de, je vais pas dire de harcèlement administratif, mais il permet à l'administration de faire très rapidement des perquisitions sans nécessairement avoir l'autorisation d'un magistrat, de faire un certain nombre d'actes, voilà, dans l'urgence.
Est-ce que c'est utile dans la lutte antiterroriste ?
C'est impossible de répondre à cette question. Vous pouvez très bien, par chance, opérer une perquisition administrative chez quelqu'un qui se préparait à faire quelque chose. Cette perquisition peut entraîner chez lui, peut entraver son projet. À l'inverse, cette perquisition administrative peut aussi l'alerter sur le fait qu'il fait l'objet d'une surveillance. Et alors là, il va redoubler de prudence. Donc c'est impossible de répondre à cette question. On ne peut pas mesurer ses effets.
Au standard, Geneviève en Haute-Savoie est avec nous. Elle écoute France Inter. Elle veut participer à notre émission. Bonjour Geneviève.
Bonjour à vous, France Inter. Voilà, j'ai une question. Je voudrais savoir s'il serait légal de demander aux médias, et pas simplement aux chaînes d'infos continues, mais à tous les médias d'arrêter de passer en boucle les photos des attentats, d'interviewer les victimes, les témoins, les voisins pendant des journées entières, ce qui fait la publicité et la propagande pour les terroristes. Merci.
Geneviève, bien sûr, on peut vous comprendre, publicité, propagande, mais il y a aussi le droit d'informer dans un pays libre. Sur ce point, David Benichou.
Je crois que c'est Margaret Thatcher qui disait que les médias sont l'oxygène du terrorisme. Le terrorisme, ça a besoin des médias, ça, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que parfois, par exemple, moi je suis choqué parfois de voir qu'un individu qui commet un attentat, eh bien on va décortiquer pendant des jours sa vie sur toutes les chaînes de télé, sur toutes les radios. On va en faire en quelque sorte quelqu'un qui va occuper l'espace médiatique, quelqu'un d'important. Tout le monde va le connaître. Ces individus, qu'est-ce qu'ils recherchent aussi petitement? Ils recherchent tout simplement aussi la notoriété. Ils recherchent... Voilà, et voilà, ça pose aussi une vraie question. Le jour où, malheureusement, on banalisera les attentats, peut-être qu'il y aurait moins de candidatures. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais il faut peut-être trouver la juste mesure aussi. Si on transforme les villes de France en mausolées, oui, on fait le jeu du terrorisme.
David Benichou, si on anéantit militairement un jour Daesh en Irak, en Syrie, on aurons-nous fini avec le terrorisme ici en France?
Moi, il y a une métaphore que j'aimais bien, c'est celle de Obama. Il comparait Daesh à un cancer. Vous pouvez attaquer le symptôme, c'est bien, mais il faudra aussi s'attaquer sur le long terme pour éviter les récidives. Alors, c'est bien de traiter le symptôme, c'est indispensable. Il faut attaquer la tumeur et les métastases, mais il faut traiter les causes profondes dans notre société. C'est indispensable de mener les deux combats
de quelle façon ?
De front. Là encore, c'est pas quelque chose de simple. Aujourd'hui, moi j'avais une crainte, et parfois j'ai le sentiment qu'elle se concrétise, c'est que l'enrôlement dans Daesh devienne, en quelque sorte, un mouvement dans lequel a besoin de s'incarner une certaine forme de jeunesse, un peu perdue, un peu sans idéal, comme si c'était devenu le Katmandou d'aujourd'hui.
Un challenge.
Voilà, parce que la jeunesse a parfois besoin de risques, d'idéaux. Seulement aujourd'hui, qu'est-ce que notre société propose à la jeunesse ? Voilà, il faut se poser aussi cette question. Et on ne peut pas trouver comme ça, encore d'un claquement de doigts, un modèle alternatif. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes se dirigent vers Daesh, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, médiatiquement, vous allez sur les réseaux sociaux ou sur Internet, c'est ça qui est proposé. Voilà, voilà. Donc il faut réfléchir à ça aussi. Proposer quelque chose à la jeunesse. Il y en a plein qui ont envie de se rendre utile, d'avoir un mode de vie difficile. Moi, j'en ai interrogé, qui sont venus chez Daesh parce qu'ils voulaient en baver, en quelque sorte. Voilà.
David Benichou, vous n'avez pas voulu prendre position sur les mesures de sécurité le 14 juillet au soir. Comprenez-vous que des familles de victimes portent plainte contre l'État ?
Bien sûr que je le comprends. Bien sûr. Ce sont des gens qui naturellement, sont dans la douleur, dans la tristesse et peuvent légitimement rechercher les responsabilités. Bien sûr.
David Benichou, vice-président chargé de l'instruction au pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Inter, d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Je rappelle que vous êtes co-auteur d'un livre paru chez Plon l'an dernier, Le djihadisme. Il est 8h54 sur France Inter.